Les tsars du ballon rond. Le quart d'heure des spécialistes.
Bienvenue dans le quart d'heure des spécialistes dans les tsars du ballon rond. On reçoit pour cette dernière notre consultant football Bertrand Chauffat, ancien entraîneur à l'Association Suisse de Football, ancien directeur technique également de l'Association de Football Bern-Jura. Bonjour Bertrand.
Bonjour Jérémy.
Juste avant de décortiquer avec vous la finale de la Coupe du Monde France-Croatie qui aura lieu dimanche, le portrait de Jérôme Moutet, pas le vôtre puisqu'il l'a déjà fait. Aujourd'hui, Jérôme Moutet, il s'attaque à Steve Mandanda, le portier remplaçant de l'équipe de France.
Steve Mandanda, vous êtes né à Kinshasa, au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, le 28 mars 1985. La même année que naissaient Lewis Hamilton, Cristiano Ronaldo, Stromae, Lily Allen, Nico Rosberg, bref, que des stars, sauf vous et Philippe Senderos, né la même année, quelle poisse. Vous êtes gardien de but et votre parcours junior débute à Évreux pour continuer au Havre. Ce Havre de paix continue de façon professionnelle en 2005 et vous êtes ensuite transféré à l'Olympique de Marseille. Là, vous trouvez votre maison, une maison magique où il n'est pas rare de trouver des liasses de billets enterrées dans le gazon. Mais de 2007 à 2016, vous jouez plus de 440 matchs pour ce club mythique qui a remporté, on vous le rappelle, la Coupe des clubs champions grâce à un but de Basil Boli. Souvenez-vous, Basil Boli qui, de par son physique actuel, ressemble plus à un président d'un obscur pays africain ou à un goûteur à l'année des biscuits Cambly qu'à un ancien footballeur. Mais en 2016, Steve, vous prenez une décision que personne ne comprend. Vous allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs, ou en tout cas, si elle a meilleur goût. Vous signez dans le club anglais de Crystal Palace. Là, vous êtes plein d'espoir, alors que tout le monde se demande ce que vous allez foutre là-bas. Vous ne jouerez que 10 matchs sans avoir effectué un seul blanchissage, ce qui est totalement incroyable, car en venant de Marseille, en général, on blanchit assez bien. Le 11 juillet 2017, vous retournez à Marseille où vous signez pour 3 ans. Au niveau palmarès, vous n'êtes pas le dernier des bricobobs car vous avez à votre actif un titre de champion de France en 2010, 3 coupes de la Ligue et 2 trophées des champions. Mais le problème, c'est l'équipe de France. Vous avez 28 sélections, mais devant vous, il y a Hugo Lloris qui, lui, a réussi à s'imposer en Angleterre à Tottenham. Le gardien de l'équipe de France, c'est lui. Vous, vous êtes derrière. Par contre, vous avez 3 frères avec des prénoms prédestinés aux humoristes et en plus, vos 3 frères sont également gardiens de but. Je n'invente rien, voici le prénom de vos 3 frangins. Il y a Parfait qui joue en Belgique. Chez nous, le Parfait, on l'étale sur notre tranche de pain, mais il y a également Riffy qui est au but à l'AC Ajaccio. Après Riffy, voici Lily et Loulou. Mais c'était sans compter sur le troisième frère du prénom de, tenez-vous bien, Auvert. Lui, il est gardien de but au Girondins de Bordeaux et comme on dit là-bas, avec Auvert, ça va saigner. Alors Steve Mandanda, on se souviendra de vous pour avoir été un très bon gardien de l'Olympique de Marseille, mais de Marseille seulement. On se souviendra de vous également comme ayant les 3 frères possédant les pires prénoms de la planète avec Parfait, Riffy et Auvert. Mais on se souviendra surtout de vous comme étant un gardien de grand talent, correct, fair play, qui est juste né un peu tôt ou un peu tard pour être titulaire avec l'équipe de France. Alors pour l'ensemble de votre œuvre, Steve, on vous dit bravo et merci.
Jérôme Moutet, lui-même portier dans une autre vie, qui s'attaque donc au gardien de cette Coupe du Monde. Bertrand Chauffat, France-Croatie, dimanche, finale de la Coupe du Monde à 17h à Moscou. Déjà, est-ce que c'est une affiche, une finale qui vous enchante, qui vous emballe ?
C'est une belle affiche, dès le moment où on peut constater que la Croatie a fait un parcours, on s'attendait vraiment pas à la Croatie, mais elle a fait un parcours magnifique, tant dans le jeu que dans les intentions, dans la volonté. Donc à partir de là, moi je disais déjà à France-Belgique, où les Belges nous avaient vraiment fait plaisir durant la première partie, bah, je disais que c'était déjà une finale avant la lettre. Bah, cette fois-ci, c'est la vraie finale, et elle me fait plaisir aussi.
On ose le dire que c'était la finale avant la lettre, encore aujourd'hui, maintenant que les matchs sont passés, ou pour vous, il y a quand même un net favori ?
Écoutez, c'est compliqué à dire parce qu'il y a plusieurs paramètres, mais je dirais que si on prend la qualité des joueurs un à un sur le terrain, c'est clair que la France part nettement favorite. Après, il reste tous ces aléas d'un match, c'est ce qui fait la beauté du foot, et on verra là vraiment ce que la Croatie est capable de faire, mais elle est capable de nous surprendre. Il faut pas déjà croire que tout est fait, et je pense que c'est une des qualités de l'équipe de France cette fois-ci, c'est qu'elle est très humble. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'humilité dans cette équipe, et puis il faudra aller les chercher.
La dernière fois que vous êtes venu, on avait parlé brièvement de l'équipe de France, c'était en phase de poule, on disait à ce moment-là, bah, elle a pas encore montré grand-chose. Elle est montée en puissance clairement sur la phase à élimination directe. La Croatie, qui avait illuminé la phase de groupe, a été un petit peu plus poussive, notamment contre le Danemark puis la Russie. Est-ce que cette dynamique, ça peut jouer pour vous? C'est un paramètre qu'il faut prendre en compte.
Bon, disons que lorsqu'on s'était rencontrés, on avait vu un France-Danemark qui était vraiment...
C'était une purge.
Oui, en dessous de tout. Après, les Croates, c'est vrai, quand ils se qualifient, ils partent de rien du tout, ils ne sont pas favoris, et tout à coup, ils deviennent dans une catégorie où on dit « attention à la Croatie ». Et là, ça peut mettre une certaine pression sur les joueurs. Je pense que cette pression, elle est partie lorsqu'ils sont qualifiés et qu'ils ont vu ce qui s'est passé dans leur pays. Une euphorie générale, etc. Donc là aussi, il faut se méfier, parce que la Croatie, je pense qu'elle sera, bien présente au coup de sifflet de départ de ce match.
Est-ce que vous voyez une clé de ce match, là où ça va se jouer? Est-ce qu'il y a un secteur en particulier où les débats vont être primordiaux pour le résultat final?
Bon, l'équipe de France est tellement bien équilibrée maintenant dans ce 4-2-3-1, avec une défense qui est très très solide, des jeunes joueurs, un milieu de terrain avec Pogba. Je parle beaucoup d'humilité, mais je trouve que Pogba est un bon exemple, parce que Pogba joue vraiment pour l'équipe, avec un Kanté qu'on ne voit pas, mais qui est absolument génial, et il fait des kilomètres. Et puis le jeu offensif qu'il a aussi, avec des Mbappé, Griezmann, Giroud, on le critique un petit peu, mais il est là, il est bien présent, et un Matuidi qui va réapparaître. Donc ça, c'est quand même des avantages. Côté croate, c'est sûr que moi j'ai un petit pincement de cœur vis-à-vis d'Ivan Rakitic, que j'ai eu l'occasion de côtoyer dans nos équipes nationales.
Le Suisse de la finale.
C'est le Suisse de la finale. Et il l'a bien dit. Hein. Et quand on parle des doubles nationaux, Ivan, il tient encore à cœur à la Suisse et il dit « je suis Suisse ». Et croate, ou croate et suisse. Donc, j'ai un petit pincement. Mais il y a quand même des Modric, il y a quand même des Perisic qui est revenu. Lui,
alors, qui a été énorme contre l'Angleterre. Il a été timide en début de mondial et puis il a fait vraiment un match fantastique.
C'est vrai. Et Modric, quoi, qui est génial. Et devant, il y a Mandzukic, qui est capable. Il lui faut une balle, hein. Il ne faut pas 15 à lui. Et puis, il est dans les 16 mètres, c'est à lui. Et là, il faudra être attentif. Mais la défense de l'équipe de France, l'axe central avec Titi et Varane, c'est aussi du haut niveau, je dirais, du très haut niveau.
Il y en a un qu'on découvre peut-être un peu plus parce qu'il joue au Beşiktaş, il n'est pas forcément dans la lumière. Moi, qui m'impressionne côté croate, c'est Domagoj Vida. On connaissait Lovren. Lovren, c'est peut-être pas le plus fort de cette charnière centrale, selon moi, mais Vida, impressionnant comme guerrier aussi, et acteur majeur de la qualification de la Croatie pour la finale.
Oui, tout à fait. C'est un guerrier. Et en jouant en Turquie, je pense qu'il a l'habitude d'avoir ce genre de match-là, avec une ambiance totalement folle, avec des pétards dans tous les sens. Là, il n'y en aura pas. Hein. C'est la FIFA qui doit organiser ça. Je serai très intéressé de voir comment ça va se passer, mais pour dire que c'est un joueur qui a aussi l'habitude du haut niveau, et puis avec Lovren, bien sûr, ils forment une charnière centrale qui est très performante et qui se complète très bien.
On disait, on en parlait avec Bernard Chaland dans cette émission, est-ce que la clé du match, ce ne sera pas de couper peut-être à un moment ce duo Modric-Rakitic pour l'équipe de France, parce que la création croate part de là. Il disait, je ne sais pas si vraiment il y a une clé de ce match, si c'est peut-être beaucoup plus complexe que ça, l'ensemble de ce qui va se dérouler dimanche.
Ah, Rakitic, il invente le foot. Hein. Il va. Si il sent que c'est fermé d'un côté, il va vous mettre des diagonales, il va vous ouvrir le jeu. Il voit des choses que d'autres ne voient pas. Moi, je pense que la France ne doit pas trop changer ses derniers matchs, ses idées, ses intentions, et rester bien dans son match. Après, bien sûr, c'est le jeu qui fera qu'il faudra réagir. Il y a assez suffisamment d'intelligence chez les Français aussi pour trouver des solutions d'eux-mêmes, sans avoir besoin du coach qui va lui faire un tableau magnétique pour montrer aux joueurs leur déplacement. Mmh. Ça, ils l'ont déjà étudié, ça, ils ont déjà vu les solutions. Et à eux, après, de se mettre et de s'adapter au jeu. Pas seulement de s'adapter, mais après, de créer aussi un petit peu. Si on veut être champion du monde, il faut en mettre encore un petit peu plus. Et le 100% ne suffit pas.
Le grand débat de ces derniers jours, on parle du critère physique, parce que la Croatie a un jour de récupération en moins, a joué l'équivalent d'un match en plus avec trois prolongations disputées. Bertrand Chauffat, est-ce qu'à un moment, oui, ça a un impact ou pas?
En sachant que vous m'aviez invité, je me suis un petit peu renseigné quand même au niveau de la condition physique, parce qu'il faut déjà être quand même spécialiste pour se rendre compte si un jour de plus ou un jour de moins aura une grande influence. Après 3 jours, il semble que le joueur a récupéré totalement. Maintenant, il y a tout l'aspect psychologique. Ça, c'est difficilement quantifiable, parce que une équipe qui s'est qualifiée, une équipe qui est capable maintenant de faire une finale de Coupe du Monde, alors qu'on ne les attendait pas du tout là, je pense que cet aspect-là, il va passer par-dessus. Donc, il faudrait pas trop non plus que l'équipe de France se dise on a eu un jour de plus parce qu'ils risqueraient de pas de rester dans le bus parce que cette fois-ci ils sont sur le terrain, mais peut-être de prendre le match un peu à la légère, mais je pense pas que ça sera le cas.
Ce sera peut-être pas le match le plus regardé, mais il y a un match demain aussi, celui pour la 3e place, Belgique-Angleterre. Bertrand Chauffat, franchement, vous lui trouvez un intérêt à ce match pour la 3e place?
Vous savez, quand vous avez été éliminé de la finale, l'intérêt n'est plus le même, y compris pour les supporters. Après, pour les joueurs, c'est sûr que sur une carte de visite, c'est quand même bien d'être médaillé de bronze dans un championnat du monde. Maintenant, je ne pense pas que les joueurs vont absolument se jeter sur le terrain pour atteindre cet objectif-là, qui n'était pas leur objectif prioritaire.
Mais peut-être en se lâchant, sans enjeu, on peut espérer des buts, peut-être un score un petit peu plus fleuve que d'habitude.
Alors là, j'espère et je pense qu'on aura un match ouvert et un match de qualité. Et là, je me réjouis parce que cette mentalité anglaise qui est toujours extraordinaire, et puis la Belgique qui a envie de montrer que c'était pas qu'un feu de paille ce qu'ils ont montré jusqu'à maintenant.
Sur le bilan de la Coupe du Monde, Bertrand Chauffat, j'ai une question à propos du jeu. On a l'impression qu'on est en train d'assister à une mutation du jeu dans le football. L'Espagne a dominé le monde en possédant le ballon. L'Allemagne l'a fait aussi. La France 98-2000 maîtrisait aussi le ballon et dominait le jeu. L'équipe de France, par exemple, aime jouer en transition, en contre-attaque. Et il y a beaucoup d'équipes qui ont cartonné dans ce mondial parce qu'elles refusaient le ballon. Est-ce qu'on est en train d'assister à un changement de la manière de jouer au football?
Alors, c'est sûr que l'aspect tactique a pris le dessus sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Maintenant, les équipes sont tellement bien préparées, connaissent tellement le fonctionnement de leur adversaire qu'ils arrivent à le contrer. Mais on voit de nouveau l'intelligence d'une équipe comme la France qui est partie en 4-3-3, qui a su réagir, qui est venue en 4-2-3-1, et avec ce système-là, a trouvé un bon équilibre. Maintenant, c'est compliqué pour un adversaire au dernier moment de dire « bon, on va lâcher le ballon, on va laisser le ballon ». Ce n'est pas le cas. Ce qui est intéressant maintenant, ce sont les équipes qui arrivent à conserver le ballon dans le camp adverse, et pas dans son camp. Dans son camp, on peut faire n'importe quoi avec, et à la fois on le perd, là on est contré. Par contre, si on est capable de garder devant et d'être très dangereux, et de le faire de tout à coup à une touche de balle, et de se créer vraiment l'occasion de but dans les 16 mètres, là je dirais que la possession peut avoir son avantage. Mais c'est plus un critère, c'est vrai.
La Croatie, justement, aime peut-être encore jouer un petit peu à l'ancienne, entre guillemets.
Oui, avec un joueur malin comme Mandzukic devant, c'est intéressant. Ils ont des joueurs, y compris leurs arrières latéraux, qui se projettent vers l'avant. Et ils ont une qualité avec Perisic sur le côté et avec Rakitic et Modric.
Et Ante Rebic aussi, qui est un peu une des révélations, parce qu'il m'a impressionné sur plusieurs matchs.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et ces joueurs-là sont capables de créer, sont des créateurs, et sont des joueurs qui arrivent à faire quelque chose que tout le monde ne peut pas faire. C'est sûr qu'à ce niveau-là, finale de Coupe du Monde, sont tous des joueurs exceptionnels, il ne faut pas rêver. Mais ce petit plus d'intelligence qui peut créer cette surprise, là, il faudra se méfier, parce que l'équipe qui marquera en premier aura certainement déjà un premier avantage, bien que ça veut rien dire, mais c'est quand même un petit avantage.
Sur ce changement de jeu, il y a quelques jours, on avait Michel Collère, préparateur physique également à l'ASF, qui nous disait on ne va pas se diriger vers des joueurs qui vont courir de plus en plus de kilomètres au fil des années, mais on va augmenter les courses à haute intensité. C'est là que se dirige le football. Ça semble abonder dans cette notion de contre-attaque, dans cette notion de temps en temps, faire des changements de rythme très violents.
Oui. Au départ, on a eu avec les GPS ce contrôle des joueurs sur le nombre de kilomètres qu'ils faisaient. On s'est bien rendu compte que c'était quelque chose, un paramètre qui pouvait être intéressant. Mais le joueur qui a l'explosivité, le joueur qui a la vitesse, le joueur qui est capable de faire les choses plus vite que les autres, celui-là, naturellement, qu'il aura un avantage. Et la préparation, Michel l'a certainement aussi lui déjà testé. Et je pense qu'on va un petit peu dans ce sens de joueur explosif. Et on le voit, les grands gabarits ont disparu. Les petits à la Iniesta, ils sont quand même toujours là. On voit un Modric, c'est pas un gars d'un mètre 90. Et c'est peut-être un domaine qui serait à découvrir. Et voilà, à vraiment réfléchir pour arriver à un haut niveau.
Si la Croatie l'emporte dimanche, ce serait son premier titre mondial. Et une nouvelle nation serait championne du monde. Il y en a 8 jusqu'à maintenant. La Croatie pourrait devenir une 9e. Est-ce que ça serait positif pour le football de voir une nouvelle nation auréolée d'un titre mondial?
Ça prouverait que toutes les nations ont leur chance, même les petites nations, voire les pays...
4 millions d'habitants, on rappelle.
4 millions d'habitants, ouais, donc moins que la Suisse, arrivent quand même, au niveau sportif, à des résultats fantastiques. Donc ça pourrait encourager. Mais de nouveau... J'ai de la peine à y croire, bien que ça serait quelque chose de fantastique, mais je pense pas que ça serait un signe qui dirait, bah maintenant, seulement les petites nations. Non, ça serait vraiment un concours de circonstances, et puis pour la France, quelque chose, alors un camouflet. Mais j'y crois pas.
Et 98-2018, ça serait une belle histoire quand même, faut le reconnaître.
Ouais, déjà, réussir à rester au haut niveau par un épisode en Afrique du Sud, c'était malheureux. Ils ont quand même réagi avec le championnat d'Europe. Et puis maintenant, ça serait une confirmation du travail et du bon travail qui est effectué du côté de la FFF.
Et peut-être l'occasion, c'est ce que nous disait Didier Tolo aussi en début d'émission, de tirer un trait sur justement toutes ces affaires, Naïsna, les polémiques entre les joueurs, les journalistes, etc., auxquelles on a pu assister ces dernières années. Merci beaucoup, Bertrand Chauffage. J'imagine que vous allez prendre votre pied devant la télé dimanche et que vous allez être devant le match. Et même samedi, voilà, c'est un vrai fan de football, il regarde tous les matchs du monde. Moi, j'en ai raté que deux, donc je vais être à 62 matchs à la fin de la Coupe du Monde.
Moi, j'en ai peut-être pas vu autant.
ma femme n'est pas très contente. Bien. Merci beaucoup, Bertrand Chauffard.
Merci à vous.
Les tsars du ballon rond. Le quart d'heure des spécialistes.